France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Vladimir Poutine célèbre sa victoire sur la place Rouge ce soir. Triomphalement réélu à la présidence russe, le maître du Kremlin veut afficher l'union nationale, mais une partie du public n'est pas venue de son plein gré, vous l'entendrez. L'actualité, c'est encore le premier appel en un mois entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. La journée de grève dans la fonction publique en France. On fera le point sur la mobilisation de demain. Rationner Internet pour préserver les plus jeunes et lutter contre la pollution numérique, c'est la proposition polémique de Najat Vallaud-Belkacem. Et puis on peut dire que c'est un coup de maître, de chef. Fabien Ferré décroche 3 étoiles d'un coup au Michelin, la table du Castelet dans le sud de la France. On reste en cuisine d'ailleurs juste après ce journal. Le téléphone sonne au 01 45 24 7000.
France Inter.
Aux yeux du Kremlin, il y a une double raison de célébrer cette journée. Celle du maintien de Vladimir Poutine au pouvoir pour encore 6 ans. Réélu avec 87% des suffrages, c'est 10 points de plus qu'en 2018. Qu'importe si les Occidentaux dénoncent un vote sous contrainte. Le président russe y voit la preuve écrasante que la population est derrière lui et sa guerre en Ukraine. Et Moscou profite d'ailleurs de ce moment pour fêter le 10e anniversaire de l'annexion de la Crimée. 2014, le premier acte de ses ambitions impérialistes. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant en direct de la Place Rouge où la cérémonie pourtant a sonné creux ce soir.
Oui, clairement, c'était pourtant conçu comme une fête. Effectivement, les 10 ans de l'annexion de la Crimée, la réélection brillante de Vladimir Poutine hier soir, le pouvoir aurait aimé que ce concert soit rempli de gens comme Oleg qui venait pour fêter la victoire de son président.
Nous sommes venus ici parce que 10 ans de retour de la Crimée, c'est magnifique, c'est important pour la Russie, ce retour de l'unité de notre État. Nous voulons vraiment entendre notre remarquable Vladimir Vladimirovitch. Bien sûr, nous avons voté pour lui et nous sommes heureux qu'il soit de nouveau notre président.
Mais dans les faits, hein, disons-le, la place rouge a sonné creux même quand Vladimir Poutine est monté sur scène. Voilà, et la raison du si faible engouement apparent de cette célébration, c'est que dans le public, il y avait pas mal de gens, en fait, qui n'étaient pas ici de leur plein gré, comme cette femme pleine de colère que j'ai croisée à l'entrée.
Je veux rentrer chez moi le plus vite possible, parce que c'est une horrible corvée.
Une corvée, dit cette femme, fonctionnaire en fait, et priée de venir grossir les rangs. Certains venaient même de loin, d'ailleurs comme cette autre femme, arrivée spécialement du nord de la Russie, transportée pour assister au concert, et elle aussi, furieuse d'être là.
On nous trimballe, on est perdu, c'est le bazar. Nous ne sommes pas de Moscou, ça fait 1 heure qu'on cherche. C'est quoi ce concert? Les gars, je comprends que ça ne vous plaît pas. Eh bien, à moi non plus.
Voilà, et manifestement le pouvoir a eu du mal à remplir en fait la place rouge cet après-midi, pas d'engouement, peu de vrais supporters, on n'était pas vraiment dans la carte postale que le Kremlin aurait aimé envoyer au lendemain d'une victoire qualifiée d'historique, mais bon, la page présidentielle est tournée, le Kremlin va pouvoir revenir aux affaires courantes.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, pour France Inter, le président chinois voit tout de même dans la réélection du maître du Kremlin un soutien inébranlable, dit-il, du peuple russe. L'Inde, l'Iran saluent une solide victoire, là où les Occidentaux dénoncent un scrutin qui n'a été ni libre ni équitable. Les mots de Joseph Borrell au nom de l'Union européenne.
Nous avons vu les élections russes. Il ne s'agit pas d'élections libres et équitables. Il n'y avait pas d'observateurs de l'OSCE. Des conditions très restrictives. Et je dis ça de la manière la plus diplomatique. Mais plus que cela, ces élections ont été basées sur la répression et l'intimidation. Et se sont déroulés sur le territoire ukrainien en violation de la souveraineté ukrainienne.
Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, traduit par Sébastien Donat, tandis qu'en Italie, la classe politique se démarque par la voix de son extrême droite. Le vice-premier ministre Matteo Salvini dit que quand un peuple vote, il a toujours raison. Ce n'est pas la ligne, recadre le chef de la diplomatie italienne, qui lui parle d'une élection qui n'a été ni libre ni régulière.
Et si on rationnait Internet ?
C'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui lance l'idée, et parce qu'elle regrette l'utilisation massive addictive des écrans par les plus jeunes et par souci écologique. Pas plus de 3 gigas par semaine, suggère-t-elle cet après-midi sur France Inter.
On ne va pas réussir à résoudre ce problème simplement en demandant aux entreprises du numérique de se comporter autrement. D'abord, ce n'est pas leur intérêt de se comporter autrement, leur intérêt c'est de nous rendre plus addicts. Et nous, on est dedans, on n'arrive pas à se sortir de cette spirale et on dit à nos enfants d'en faire moins, mais en fait, ils nous voient en faire toujours plus. Donc, en fait, le sujet, c'est qu'est-ce qui pourrait nous sortir de cette spirale. Et moi, je suggère une idée qui serait peut-être que si on avait un nombre de gigas contraints par semaine, peut-être que déjà, on les utiliserait un peu mieux. On éviterait d'aller propager des fake news, harceler des gens. Enfin, le cyberharcèlement, quand même, c'est une grosse calamité de notre temps. Et qu'on l'utiliserait plutôt à bon escient. Donc c'est une idée parmi d'autres, mais je trouve pas ça normal que le débat politique se désintéresse à ce point de l'un des gros problèmes de notre temps pour les adultes, mais surtout pour les enfants.
Najat Vallaud-Belkacem, invitée de l'émission Jusqu'ici, tout va bien, pas plus de 3 gigas par semaine, suggère-t-elle, alors que selon l'ARCEP, le régulateur des télécoms, les Français consomment en moyenne 14 gigas par mois, uniquement depuis leur téléphone mobile. Et contre la pollution plastique, les géants de la chimie misent désormais sur le recyclage chimique. La France s'est fixé comme objectif 100% de plastique recyclé à l'horizon 2025. C'est la journée mondiale du recyclage aujourd'hui. Et en voici donc un d'un nouveau genre, Sandy Dauphin.
Le recyclage classique consistait à fondre les emballages pour fabriquer de nouveaux objets. Le recyclage chimique, lui, va décomposer le plastique avec des solvants pour obtenir des granulés comme neufs. Cédric Perben dirige le projet de la plus grosse usine de recyclage chimique au monde, projet mené par le groupe américain Eastman à Port-Saint-Jérôme en Normandie.
Le plastique, c'est comme un collier de perles avec un solvant qui s'appelle le méthanol. On va décomposer ce collier de perles en isolant les différentes perles. On va les nettoyer, les purifier de façon chimique. Et après, on va les réassembler pour faire un polymère, donc un collier de perles, qui sera identique en propriété que si on l'avait fait d'une façon standard avec du plastique vierge.
En Normandie, le groupe Eastman veut recycler du plastique PET et notamment les déchets difficiles à recycler, comme les emballages colorés, métallisés et les textiles.
Aujourd'hui, simplement 30% des plastiques ont une solution de recyclage. Et grâce au recyclage chimique, les autres 70% des plastiques qui seront collectés auront des solutions de recyclage.
La France compte une quinzaine de projets d'usines de recyclage chimique, mais ce nouveau procédé soulève aussi de nombreuses questions. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques s'interroge sur son impact environnemental et sur l'élimination des substances chimiques toxiques.
Sandy Dauphin. Jean-Michel Blanquer a trouvé à se recycler. L'ancien ministre de l'Éducation nationale va présider Terra Academia, une école de la transformation écologique. Premier campus inauguré aujourd'hui à Arras, initié et créé par le géant de l'eau Veolia pour former au métier de la transition écologique, souvent méconnu, alors même que 8 millions d'emplois vont être affectés par la transformation écologique d'ici à 2030. Selon les projections du secrétariat de la planification écologique rattaché à Matignon, Veolia souhaite une école de ce type dans toutes les régions françaises d'ici à 5 ans.
À 19h08, Hélène, Joe Biden et Benjamin Netanyahou se sont parlé au téléphone.
Et c'est la première fois depuis un mois, alors que le soutien de Washington à l'État hébreu était inconditionnel depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. Une distance s'est installée ces dernières semaines. Bonsoir Sébastien Paour, notre
Bonsoir
correspondant
à tous.
Aux États-Unis. Le président américain s'est fait de plus en plus critique de la stratégie israélienne dans la bande de Gaza.
Oui, la Maison-Blanche n'a pas encore communiqué les détails de ce coup de fil, mais l'air s'est rafraîchi clairement entre les deux hommes ces dernières semaines. Depuis que Biden, en fait, a compris que son soutien quasi inconditionnel à Israël, au début de ce mouvement, pouvait lui coûter sa réélection depuis le 7 octobre. Les reproches ne se font plus entendre seulement dans la rue ou devant le domicile ici du secrétaire d'État Anthony Blinken. Ils ont lieu aussi dans les urnes pendant les primaires qui sont en cours. Des électeurs démocrates votent l'équivalent d'un bulletin blanc pour dire leur opposition à cette politique du président américain qui ne tient pas assez compte, d'après eux, du sort des Palestiniens dans ce conflit. Et ils se disent prêts à faire pareil, eh bien, en novembre à la présidentielle. Biden a donc changé de pied vis-à-vis de Netanyahou. Encore la semaine dernière, après le discours du chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui demande des élections en Israël, un changement de premier ministre, Biden trouve que c'est un bon discours. Il explique que c'est une position qui est partagée par beaucoup de monde ici aux États-Unis. Au téléphone tout à l'heure, on sait qu'il a de nouveau mis en garde Netanyahou sur son projet d'offensive à Rafah. Celui-ci lui a répondu qu'il était déterminé à atteindre ses objectifs, notamment l'élimination du Hamas. Biden est sans doute un peu irrité aussi parce qu'il avait espéré publiquement, vous vous souvenez, une pause dans les combats avant le Ramadan. Elle n'a pas eu lieu, notamment à cause de la politique va-t-en-guerre de celui qu'il prenait encore dans ses bras début octobre. À Tel Aviv.
Sébastien Paou en direct de Washington, alors que dans la bande de Gaza, l'armée israélienne est en pleine opération dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa, au nord, persuadée de la présence de terroristes au gradé du Hamas dans l'établissement de santé. L'OMS se dit terriblement préoccupée pour la vie des personnels, des patients et des civils. En France, alors que le nombre d'actes antisémites a explosé depuis les attaques terroristes du Hamas, le chef de l'État reçoit ce soir les membres du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juive de France. Ce sont les 80 ans de l'organisation. Et à quoi va ressembler la journée de demain dans la fonction publique? C'est une journée de mobilisation nationale pour les salaires. 5 700 000 agents sont appelés à manifester. Une centaine de cortèges annoncés un peu partout en France. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
On pense aux enseignants. Est-ce que le mouvement sera suivi dans l'éducation nationale?
Assez difficile de prédire quelle sera la mobilisation demain. On ne sait jamais vraiment, mais fort à parier qu'elle sera moindre que lors de la précédente grève du 1er février, lorsqu'on sait que les enseignants du premier degré doivent se déclarer 48 heures à l'avance, que les syndicats, à l'heure qu'il est, n'ont pas de remontée ou alors très peu. Ce n'est pas signe d'une grosse mobilisation généralement, même si Guylaine David du SNUPP-FSU, premier syndicat du primaire, préfère prévenir les parents que devant certains établissements, ils trouveront sans doute porte close.
Des écoles qui seront fermées et notamment des accueils qui seront pas possibles parce que les ATSEM et puis les personnels territoriaux seront en grève. Je pense notamment à Paris, il y a quelques écoles fermées. Dans les grandes villes, il y aura des écoles de fermées aussi. Et puis, dans d'autres endroits, les services de cantine et garderie fonctionneront, mais à vitesse, on va dire, réduite.
Voilà pour l'éducation nationale. Maxime, et plus largement, la fonction publique?
Dans les hôpitaux, les crèches, les garderies, mais aussi dans les transports publics de plusieurs villes, des préavis sont déposés qui donneront lieu à des perturbations sur les lignes de bus, de tram, de métro. Un conseil, vérifiez, prenez vos dispositions.
Les infirmiers libéraux se mobilisent aussi.
Oui, appel à se mobiliser entre deux patients s'ils ne peuvent pas cesser le travail une journée entière. Des infirmiers libéraux qui se disent épuisés, qui en appellent au ministère de la Santé pour que soit mieux reconnue la pénibilité de leur métier, que l'acte médical soit là encore mieux valorisé dans un contexte d'inflation que ces infirmiers disent ressentir comme les autres, avec des soins à domicile de plus en plus nombreux, des déplacements de plus en plus coûteux, l'essence augmente, le matériel médical également. Ils ne s'y retrouvent plus, leur grève prendra demain la forme d'opérations escargots un peu partout sur le territoire.
Et dans le monde agricole, la sortie de crise peine à se dessiner. Le Premier ministre reçoit les syndicats demain matin, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, alors qu'une vingtaine de tracteurs ont fait leur retour près de Toulouse aujourd'hui. Ils attendaient les aides de la PAC le 15 mars. Promesse du gouvernement, ils n'ont encore rien touché.
Sécurité renforcée à la Courneuve.
Gros dispositif policier mis en place dans cette commune de Seine-Saint-Denis après l'attaque du commissariat hier soir. Une cinquantaine de personnes ont tiré des mortiers d'artifice, des cocktails Molotov. Quatre jours après la mort d'un jeune majeur, Wanis, tué dans une collision avec une voiture de police à Aubervilliers. 9 jeunes ont été interpellés après les incidents d'hier soir. Des renforts sont donc arrivés, que certains habitants regardent avec méfiance. Sarah Mansoura est sur place.
Garés les uns derrière les autres, les camions bleus de l'escadron de gendarmerie encerclent le commissariat. Les agents restent statiques, armes à la main. À moins de 30 mètres d'eux, un groupe de jeunes les toise du regard.
Regarde les keufs.
Hitler, il sort de leur grotte, là, voilà.
Ses grands frères, comme ils se présentent, voient leur présence d'un mauvais œil.
Je pense que c'est de la provocation de leur part. Il y a eu un décès. Dans tous les quartiers, tous les ans, il y a un meurtre. Au lieu de se replier, de rester dans leur coin, tranquillement dans leur commissariat, amener leur enquête ou je sais pas, faire leur truc, ils se mettent en bas des bâtiments des jeunes, ils provoquent les jeunes. Vous pensez quoi là, que là ce soir ça va pas péter quand ils sont comme ça posés ici? Les gens ils sont pas contents de voir leur présence.
Et tous n'ont que le nom de Wanis à la bouche. Et dans un quartier en deuil, c'est encore la lassitude et la colère qui priment. Pour cet autre grand frère, les jeunes du quartier ont voulu faire passer un message, mais ils ne pensent pas que la situation va s'envenimer ce soir.
Nous on essaie de calmer les choses et tout, mais après vous connaissez, c'est leurs potes et tout, c'est leurs amis. Après c'est pas, je vais pas les attacher pour pas qu'ils vont faire leur... Vous voyez ce que je veux dire? C'est mes petits frères. et tout, mais je peux leur dire de ne pas aller faire des foutre la merde. C'est tout.
Moi, je pense qu'il faut les laisser s'exprimer quelques jours, et après, voilà, après, ça va se calmer, c'est tout.
S'exprimer avec du mortier d'artifice, c'est ce que les autorités entendent éviter ce soir. Les forces de l'ordre se montreront intraitables, a prévenu le préfet de police.
Reportage Sarah Mansoura en Côte d'Or à Talence et dans un secteur connu pour son trafic de drogue. Un adolescent a été tué hier. Un jeune garçon de 15 ans qui officiait comme guetteur, selon les informations de France Inter, tué par balle vers 21h30. La semaine dernière, un autre jeune homme a été mortellement poignardé dans cette même commune sans que l'on sache si ces deux affaires sont liées. Dans les Deux-Sèvres, près de Niort, voici à présent une cohabitation qui fonctionne. Des mineurs isolés vivent avec des personnes âgées dans une résidence autonomie intergénérationnelle, la première en France. Ça se passe dans la commune de Sieck et c'est le reportage de Noémie Guillotin.
Un ado originaire d'Égypte ne lâche pas la main de Marie-Madeleine, 91 ans.
Il se figure qu'il est avec sa famille.
Avec Roselyne et un autre jeune, ils discutent cuisine.
Qu'est-ce que tu fais ce soir à manger ?
Poulet. Beaucoup, beaucoup.
Beaucoup de poulet. On essaie de comprendre.
Et quand ce n'est pas possible,
on se parle avec les mains.
Ses mamies, comme elles s'appellent, sont ravies de cette cohabitation.
Ils sont tout à fait respectueux, très polis. Ils nous font goûter leurs plats. Ça donne un peu de joie dans la résidence. Oui. Moi, je dis, c'est nos arrière-petits-enfants.
Voilà. Kofi, ivoirien de 15 ans, se sent lui bien moins seul qu'à l'hôtel.
Parfois, ça nous manque de revoir nos parents, mais quand on voit les personnes âgées, déjà, on se sent en famille, quoi.
Et lui aussi, apprendre ses échanges.
Il y a des jeux ici que je ne savais pas comment on le joue, donc elles m'ont fait découvrir les quatre.
Les élus se félicitent de l'accueil positif reçu par le projet à Sieck et des premiers résultats, à l'image de Coralie Desnoux, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.
C'est la l'exemple même de l'intégration. Il se passe quelque chose de fantastique dans cette résidence autonomie et je crois que aux heures que nous vivons en ce moment en France, eh bien ça fait du bien.
Une expérience que le département espère pouvoir dupliquer.
Reportage France Bleu Poitou. Le moustique tigre, on le sait, est désormais bien installé en France, présent dans 71 départements. Eh bien la ville de Strasbourg ne compte pas se laisser faire. Budget multiplié par 4, porté à 200 000 euros pour traiter et sensibiliser la population.
Tout le monde veut prendre leur place.
Bah oui, c'est le déport-drapeau pour les Jeux Olympiques. C'est une fierté, c'est un honneur pour les athlètes, encore plus cet été à Paris. Alors les nouvelles règles imposées par le comité olympique font polémique. Clarisse Agbenienou ne comprend pas qu'on l'écarte, par exemple, sous prétexte qu'elle l'a déjà été porte-drapeau. Mais le comité olympique ne compte pas bouger. Le message, c'est place aux autres, Emma Sarango.
Il n'est peut-être jamais bon de faire totalement l'unanimité, préfère sourire le président du comité olympique, David Lapartien, qui répond, sans la citer, à la judokate Clarisse Agbenienou.
Le fait d'avoir été porte-drapeau est une chance d'avoir eu à représenter notre pays. On estime conjointement et presque unanimement qui peuvent permettre aussi à d'autres d'incarner le sport français.
Laisser la place à d'autres donc, mais pas à n'importe qui. Et là encore, le comité olympique assume quiconque aura été condamné, soit pour un délit grave, soit pour un délit dit sportif, dopage ou pari par exemple, ne pourra pas être choisi. Et là encore, il ne reviendra pas dessus. Maintenant, tournons la page et surtout ne soyons pas rancuniers, espère David Lapartien.
Ce qu'on souhaite, c'est que toutes celles et ceux qui éventuellement pouvaient être candidats au poste de porte-drapeau et qui ne pourront peut-être pas l'être, soient aussi pleinement mobilisés. On sera avec eux sur les Jeux Olympiques. On souhaite que tous ces athlètes soient champions olympiques. Ce sont des immenses athlètes qui nous font rêver.
Qui font rêver, mais qui ne seront donc pas choisis pour représenter les Bleus s'ils ne remplissent pas tous les critères, dont la liste précise sera envoyée cette semaine aux fédérations sportives.
Emma Sarango, le football, c'est Antoine Griezmann, on l'apprend à l'instant, qui ne jouera pas avec l'équipe de France contre l'Allemagne et le Chili, forfait en raison d'une entorse à la cheville droite. Et puis le tapis est rouge et gourmet à Tours en Indre-et-Loire. 700 chefs et professionnels de la restauration étaient donc réunis au Palais des Congrès pour la grand-messe de la cuisine, la 115e sélection du guide Michelin et ses étoiles. Il y a 52 promus cette année, 52 premières étoiles et 3 d'un coup pour le chef Fabien Ferré à la table du Castellet dans le sud de la France. Forcément, c'est dur de trouver ces mots.
C'est chargé d'émotions pour moi. Pas très doué pour les discours, apparemment un peu plus en cuisine. Voilà, je suis arrivé il y a maintenant 11 ans au Castellet. Est-ce qu'un jour j'aurais pensé être sur cette scène avec la plus belle des récompenses? Je pense pas. Merci beaucoup. Une grosse pensée pour Christophe Alexandra Baquier, avec qui j'ai pu évoluer pendant 10 ans. C'était pas simple de relever le défi, de passer après le chef. J'espère aujourd'hui, chef, que vous êtes fiers qu'on puisse continuer à écrire l'histoire de la plus belle des manières.
Voilà, Fabien Ferré qui rend hommage à Christophe Bacchi, à qui il a repris le restaurant du Castelet, désormais 3 étoiles au guide Michelin. C'est le plus jeune chef français, on peut le noter,